Les bienvenus parmi nous, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Philippiens. Nous allons lire dans Philippiens, chapitre 4, le verset 6 et le verset 7. Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons nous placer devant toi, Seigneur, pour que tu ouvres nos cœurs et nos esprits, Seigneur. Que ta parole pénètre profondément en nous, Seigneur, et ce que nous allons apprendre de toi aujourd'hui, Seigneur, que nous puissions l'intégrer dans nos vies, Seigneur, et le mettre en pratique, Seigneur. Parce que, Seigneur, ce que tu veux, c'est pas que nous sachions beaucoup de choses, Seigneur, mais ce que tu désires, c'est que ta parole pénètre en nous pour que nous soyons rendus meilleurs, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Merci de faire cette œuvre en nous ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien. Alors c'est un passage que vous connaissez tous, je suis presque par cœur, je pense, hein, ou par cœur complètement. Alors nous allons essayer de trouver quelques nouveautés dans ce passage, sachant que depuis sa naissance, la vie de l'homme, et de la femme d'ailleurs, n'est qu'un grand et un long combat. On en est tous au même point, hein, depuis qu'on est né, on s'est rendu compte que on avait beaucoup de choses à faire, on avait beaucoup de choses à combattre, à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Le premier combat, c'est la naissance physique. Hein, vous vous rappelez tous de votre naissance, je suppose? Non? Rassurez-vous, votre mère, elle s'en souvient. Si. Dans Genèse 3,16, il nous est dit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, etc. Donc, je vous confirme que votre mère se souvient de votre naissance. Si l'accouchement, effectivement, est assez difficile pour la mère, il est aussi pour le bébé, qui doit se frayer un passage vers la sortie, en passant par un chemin quelque peu étroit. Hein, c'est bien ça, hein. Si je dis des bêtises, vous me le direz, parce que je ne suis pas une femme. De plus, il était bien au chaud dans le ventre de sa mère. Et subitement, il est expulsé de sa douce villégiature dans un monde froid et hostile. Vous vous rendez compte ce qui nous arrive? Il passe même d'un monde aquatique dans un monde sec. Et hostile. Et en plus, dans ce monde aquatique, il se fatiguait pas à respirer, il n'en avait pas besoin, puisque le cordon lui fournissait tout l'oxygène nécessaire. Mais dans ce monde sec, il doit prendre sa première bouffée d'air plus ou moins pur, selon où on habite. Et il paraît que ça fait mal. Vous comprenez maintenant pourquoi vous ne vous souvenez pas de votre naissance? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans sa grâce, Dieu a pourvu pendant l'accouchement un processus chimique qui inhibe tout souvenir chez l'enfant. C'est cool. Heureusement d'ailleurs. J'aimerais pas du tout me souvenir comment je suis sorti du ventre de ma mère. Ça serait le plus mauvais souvenir de ma vie. Et donc je remercie le Seigneur pour sa grâce. Deuxième combat, c'est pas fini. L'apprentissage de la vie. Alors communiquer, apprendre à marcher, apprendre à manger, apprendre à beaucoup de choses. Je vous passe les détails. Là aussi, la tâche n'est pas facile et le combat est rude pour le petit enfant qui doit se faire une place dans la crèche où ses parents l'ont lâchement abandonné tous les jours. c'est dur quand même. Le combat est difficile. Heureusement, l'enfant grandit. Ouais, il devient un bel adolescent. On croit alors qu'on est arrivé à l'apogée de sa vie. Vous vous souvenez, pour ceux qui sont pas, qui ont dépassé l'adolescence, on se croit immortel. Hein, on est sûr de réussir tout ce qu'on va entreprendre. Je caricature un peu, mais c'est à peu près ça, hein, l'adolescence. Et en plus, pour certains, on a la grâce d'avoir quelques boutons. Ça, c'est pour arranger la sauce. Pour certains seulement. Hein. Mais bon, tout cela pour vous dire, hélas, que la vie nous rappelle vite à l'ordre, car cet âge est parsemé d'embûches et souvent de révoltes contre l'autorité. C'est vrai ? Bon. Je vois que vous êtes sincère avec vous-même. Enfin, on arrive plus ou moins en bon état à l'âge adulte, où l'on doit se battre, là aussi, pour s'imposer au travail, dans sa famille, dans son couple, dans ses rapports avec ses enfants, dans ses relations avec ses voisins, etc., etc., etc. La vie, donc, de la naissance à la mort, n'est qu'un long combat. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le passage qu'on vient de choisir ? Pourtant, au commencement, il n'en était pas ainsi. Dans Genèse 1, 27, il nous est dit que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Nous étions beaux, sans aucun doute. La souffrance, la mort, donc les combats, n'existaient pas à ce moment-là. Alors, j'ai divisé mon message en plusieurs points, 4 pour être précis. Donc, le premier passage, nous allons parler de l'origine de la violence. Le second, nous allons regarder la paix que le monde offre. Ensuite, la paix avec Dieu et la paix de Dieu. Et là, nous allons venir, évidemment, plus précisément au passage que j'ai choisi ce matin. Alors, l'origine de la violence, voyons ça. Vous connaissez donc la suite de Genèse, Genèse 3, la tentation, la chute, la mort spirituelle de l'homme qui a entraîné sa mort physique également. Romains 5, 14 nous dit « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » Alors vous me direz « Mais nous, on n'a pas choisi de naître. » Et puis, le péché originel, comme on l'appelle. Bien, j'ai rien fait pour le mériter. Et pourtant, il est inséré dans mes gènes et je n'ai aucun moyen de m'en débarrasser, personnellement. C'est comme ça. Jacques 4, 1 à 4 nous dit également « D'où viennent ces luttes et d'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et à ce moment-là, nous sommes devenus des ennemis de Dieu, réellement. La paix existe-t-elle dans le monde ? C'est une vaste question qu'on aurait pu poser au bac, peut-être, hein, en philosophie. Pourtant, ce qu'on sait, c'est que l'homme aime la paix. Moi, j'aime être en paix, il n'y a pas de problème. Peut-être pas tous les hommes, mais en tout cas, une grande partie aime la paix. Mais sa nature pécheresse l'en éloigne. Romains 7, 18 nous dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien », nous dit Paul. L'homme est nostalgique de la paix qu'il avait auprès de Dieu dans le jardin d'Éden. Et il recherche sans cesse à la reproduire. tout en évinçant Dieu de sa vie également. C'est ce qui se passe dans le monde actuellement. Le monde court après une paix illusoire, mais ne veut pas admettre que c'est Dieu qui doit mener sa vie. En 1998, tous les prix Nobel de la paix ont signé un manifeste, qui a été voté à l'ONU d'ailleurs, et dont le titre est « La première décennie du XXIe siècle sera la décennie de la paix et de la non-violence pour les enfants du monde ». Waouh ! Moi, j'aime bien le titre. Je trouve que le titre est superbe. Ils ont dû mettre un moment déjà pour le pondre. 20 pays se sont engagés, d'ailleurs, pour un avenir sans guerre. Et sont soutenus, et ont été soutenus également par plusieurs ONG. ONG, c'est organisation non gouvernementale, pour ceux qui ne sauraient pas. Et des groupes religieux également. C'est une intention très louable. Et on est d'accord avec cela. S'il pouvait ne plus y avoir de guerre sur Terre, on serait très content en tant que chrétien. Ça serait une très bonne chose. Mais le résultat des 4 premières années du 3e millénaire n'ont jamais connu autant de conflits sanglants et de terrorisme dévastateur. Et je vous confirme que les 8 années suivantes ne sont pas meilleures. Et là, on peut l'attester nous-mêmes. Même les événements actuels le prouvent. Et ça, c'est pour le 21e siècle. Mais le 20e siècle a été de loin, dans l'histoire de l'humanité, le siècle le plus sanglant de toute l'histoire. Souvenez-vous, 2 guerres mondiales, pour ceux qui les ont vécues en tout cas, et des millions de morts. Et j'abrège, bien entendu. On recule encore dans l'Antiquité, pour ceux qui se souviennent de leurs histoires qu'ils ont appris quand ils étaient petits, la Pax Romana, vous savez tout ce que c'est, n'était qu'un leurre alimenté par la force brutale de l'Empire romain. Alors c'est une manie que les gens ont, que les hommes ont, d'imposer la paix par la force. C'est un peu paradoxal, mais ça se fait beaucoup. C'est assez prisé dans le monde entier. Les armes sont de plus en plus sophistiquées, je dirais, et la Terre pourrait même être détruite en un instant si on commençait à allumer les mèches de toutes les bombes qu'on a. Waouh ! Et pour terminer cela, le psaume 55, verset 21, nous dit « La guerre est dans le cœur de l'homme ». Et Ésaïe 57, 20 nous dit aussi « Il n'y a pas de paix pour les méchants ». Donc si la guerre se trouve dans le cœur de l'homme, et l'homme étant méchant, vous comprenez bien que la paix qu'offre le monde est complètement illusoire. Il y a, je pense, quelques années dans toute l'histoire de l'humanité où il n'y a pas eu de guerre. On peut les compter sur les doigts des deux mains. Ça ne fait pas beaucoup. Alors vous me direz, on est vraiment mal pris là. Le cœur de l'homme est mauvais, la paix n'existe pas sur Terre, mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Qu'est-ce qui a entraîné cet état ? Nous l'avons vu au départ, la chute, le péché qui est entré dans le monde empêche l'homme d'accéder à cette paix. Mais il y a un chemin que Dieu a tracé, justement, pour retrouver la paix. Dans la troisième partie du message, nous allons parler de la paix avec Dieu, qui est un peu différente de la paix de Dieu, bien entendu. Et c'est le moyen que Dieu a choisi pour réconcilier l'homme avec lui-même. L'homme a besoin de retrouver cette paix qu'il a perdue. Et la Bible nous donne la raison pour laquelle l'homme ne peut pas vivre en paix, ni avec lui d'ailleurs, ni avec les autres. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Tous, nous comme les autres, n'est-ce pas ? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pour être en paix avec lui-même, et avec les autres hommes, l'homme doit faire la paix avec son Créateur. N'oubliez pas que depuis la chute, nous sommes ennemis de Dieu. Un ennemi a besoin de faire la paix avec son autre ennemi pour qu'enfin il puisse se réconcilier. Et heureusement, puisque nous, nous sommes incapables de revenir vers Dieu par nos propres moyens, dans Colossiens 1:20, Dieu nous dit, il a voulu par lui, c'est-à-dire Jésus, tout réconcilier avec lui-même, tout ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux. Tant que c'est ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Enfin, une bonne nouvelle. Dieu a conçu un plan qui n'aurait jamais pu être conçu par un homme, le plan de la croix. Le plan de la croix, c'est de s'incarner en tant qu'homme afin de pouvoir mourir et de faire croire à Satan que sa plus grande victoire, en fait, est sa plus grande défaite. Et c'est ce qui s'est passé à la croix. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. À la croix, Jésus a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Et tous ceux qui croient en lui, par la foi, sont justifiés et sont donc réconciliés avec Dieu. Et cette paix avec Dieu que nous avions perdue, nous la retrouvons au moment où nous nous convertissons à Dieu, où nous acceptons déjà que nous sommes réellement des pécheurs, que nous avons besoin de nous repentir de nos péchés, que nous ne pouvons pas le faire par nos propres forces, et que c'est Jésus, par son sang à la croix, qui peut nous laver de nos péchés. Alors, un petit récapitulatif, pour vous réveiller un petit peu. Hein ? La violence fait partie de la vie de l'homme, depuis la chute, on est bien d'accord. Le monde a exclu Dieu de son panorama et essaie de reproduire la paix de Dieu sur la terre sans aucun succès, hélas. Et pour pouvoir recevoir la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, l'homme doit auparavant faire la paix avec son Dieu. C'est d'une logique imparable. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À qui Dieu s'adresse-t-il? À des chrétiens, qui le connaissent. Alors d'où vient cette paix de Dieu? Puisque nous avons vu maintenant que puisque nous avons fait la paix avec Dieu, eh bien nous pourrons recevoir cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Que nous dit ce passage sur cette paix de Dieu? Elle vient déjà d'une relation de confiance avec notre Dieu. C'est la base de la paix de Dieu qui peut nous remplir, si nous avons confiance en Dieu. Je vais d'ailleurs vous conter une histoire. Ah, ça va. Illustrant cette relation de confiance qui doit s'installer entre nous et Dieu. Alors je vous lis ça. Le survivant d'un naufrage échoua sur une île déserte. Genre Robinson Crusoe, quoi. Oui. Il commença donc à s'organiser. Il construisit une sorte de hutte dans laquelle il entreposa tout ce qu'il avait pu sauver du naufrage et qui pour lui avait une grande valeur. Vous savez que quand vous êtes sur une île déserte, vous n'avez rien, eh bien la moindre petite chose, certainement, devient quelque chose de très précieux. Il priait Dieu tous les jours de le délivrer et scrutait avec anxiété l'horizon pour se signaler à tout bateau qui serait passé au large éventuellement. Donc apparemment, il priait Dieu, c'est un chrétien, et il connaissait Dieu. Un jour, en revenant de chercher de la nourriture, il fut saisi d'horreur à la vue de sa hutte en feu. Il venait de perdre en un instant tout ce qu'il avait pu sauver de la catastrophe. Il était donc désespéré et complètement abattu. on peut le comprendre. Ils se retrouvaient, entre guillemets, tout nus, de nouveau. Pourtant, ce qui au premier abord semblait être une tragédie, était en réalité le moyen de la délivrance envoyée par Dieu. Et cette perte apparente était la réponse à son ardente prière. Le jour même, en effet, arriva un bateau qui le prit à son bord. Et le capitaine lui dit, « Nous avons aperçu le signal de votre fumée. » Et c'est à ce moment-là, évidemment, que notre compère comprit comment Dieu l'avait délivré. Et comment il avait eu peu de confiance en son Dieu malgré tout. Mais c'est une belle histoire qui nous rappelle que la confiance est quelque chose de primordial et que Dieu est fidèle. Il est souverain également et ses plans se réalisent toujours pour le bien de ses enfants. Il nous demande juste de lui faire confiance, même si les circonstances paraissent défavorables au premier abord, comme dans cette histoire. La paix de Dieu nous aide à connaître sa volonté. Nous savons tous qu'il n'est pas toujours facile de connaître la volonté de Dieu pour notre vie, et nous sommes souvent à l'affût du moindre indice à ce sujet, pour choisir, une carrière professionnelle, un conjoint, un ministère dans l'Église, etc., etc. Notre question à Dieu est toujours « Suis-je à la bonne place où tu veux que je sois ?» Et nous avons plusieurs facteurs qui peuvent nous permettre de savoir si nous sommes dans la volonté de Dieu. Est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu ? Les circonstances sont-elles favorables ? La prière et le jeûne, qui peuvent entraîner une réponse claire de Dieu, mais évidemment le témoignage intérieur du Saint-Esprit qui nous remplit de paix également. Si vous avez les trois premières choses et que la quatrième ne vient pas, il faut se poser des questions, parce que la paix de Dieu ne trompe pas. Et nous allons voir pourquoi. Donc la paix de Dieu nous permet de connaître la volonté de Dieu. Elle s'ajoute aux autres pistes que Dieu nous donne afin de nous montrer le chemin. La paix de Dieu donne aussi la sérénité dans les moments d'épreuve. Et combien tous ici nous le savons, tôt ou tard, nous avons tous passé par des épreuves d'une manière ou d'une autre. Ou si nous n'avons pas eu encore d'épreuves, sachez que vous en aurez. Prenons un exemple biblique dans Ésaïe 7, du verset 2 au verset 4. Il nous est dit « On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm. » Ésaïe 7, 2 à 4. Les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, « Va à la rencontre d'Akaz, toi, Échéar, Jacub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc et de l'étang supérieur sur la route du champ du Foulon, et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Retsin et de la Syrie et du fils de Remalia. En effet, c'est une situation extrêmement dangereuse. La Syrie est un adversaire séculaire d'Israël depuis toujours. Et ils ont toujours eu une dent contre Israël, en effet. Et puis, cycliquement, selon le roi de Syrie, ils se mettaient dans l'idée d'attaquer sans arrêt Israël. Et c'était connu de tout Israël. Et chaque fois que la Syrie arrivait pour envahir le pays, c'était une grande épreuve qui était donnée à Israël. Et à ce moment-là, c'était Akaz qui était roi. Et je pense qu'il a eu peur, tout simplement. Mais heureusement, Dieu était là pour le remplir de paix, par l'intermédiaire d'Ésaïe, bien entendu. Mais pour nous, c'est pareil. Nous voyons que dans nos moments d'épreuve, Dieu ne nous laisse pas orphelins. Dieu est là, il nous donne sa paix. L'épreuve peut être certaines fois difficile à supporter, dure. Mais Dieu ne nous abandonne jamais. Et c'est lui seul qui peut nous donner cette paix. Nous avons beaucoup d'autres exemples dans la parole de Dieu, d'hommes et de femmes qui ont eu confiance en Dieu dans des circonstances plus que défavorables. Alors nous, quand nous sommes dans la fournaise de l'épreuve, quel est notre réflexe? Nous sommes remplis d'angoisse ou nous nous réfugions dans notre confiance, dans notre Dieu? C'est une question qu'on peut se poser parce que tôt ou tard, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous passerons par les épreuves. Quoi qu'il arrive, la dernière, c'est l'épreuve de la mort. Et à ce moment-là, est-ce que nous aurons confiance en Dieu, du fait qu'il nous attend dans le ciel? Et sachez que quand l'épreuve arrive, la paix arrive. Avec. Quand il n'y a pas d'épreuve, on n'a pas besoin de paix. On n'a pas besoin de la force du Seigneur. Mais quand l'épreuve est là, Dieu ne nous abandonne jamais. La paix de Dieu est un don de Dieu. Jean 14, 27 nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » La paix de Dieu est un don direct de Dieu. Et nous ne pouvons pas la contrefaire, quoi qu'il arrive. On ne peut pas non plus la fabriquer nous-mêmes, à coup de versets bibliques ou de méthodes de persuasion, quelconques. Non, elle n'est pas le produit artificiel et passager d'un effort humain. Simplement parce qu'elle surpasse toute intelligence, comme la parole de Dieu nous le dit. Elle vient directement de notre Seigneur. Et c'est tant mieux. Parce que comme cela, nous ne pouvons pas nous tromper nous-mêmes. C'est cette paix dans l'épreuve qui interpelle d'ailleurs le non-croyant quand il voit un enfant de Dieu vivre dans la paix ces moments difficiles. Quel message nous envoyons à ce moment-là au non-croyant? Qui lui, quand il est dans l'épreuve, eh bien, ça ne se passe pas du tout comme cela. C'est bien un don de Dieu qui n'existe pas sur terre. La paix de Dieu est conditionnée, évidemment, à notre communion avec Jésus-Christ. 1 Jean 1, 7, nous dit « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Dieu veut que nous soyons en communion avec lui. Ce n'est pas une option, c'est un ordre. Pour être en communion avec lui, il ne nous demande pas d'être sans péché. Il sait que nous sommes faits de chair, n'est-ce pas? Et il sait que nous pécherons tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. Si vous lisez la première épître de Jean, vous vous rendez compte immédiatement que celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur. Et nous pouvons tous l'attester ici. Par contre, ce que Dieu veut, c'est que nous ne restions pas dans nos péchés. Et que si nous nous rendons compte que nous péchons à un moment ou à un autre, immédiatement, nous confessions notre péché pour retrouver cette communion qui serait cassée. Sinon. Donc, lorsque nous persévérons dans la communion avec lui et que notre relation n'est pas obscurcie par des choses qui l'attristent, donc, alors nous pouvons recevoir cette paix qui surpasse toute intelligence, et seulement à ce moment-là. Par sa paix, Dieu s'engage envers nous à garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. En effet, la vie chrétienne est aussi un combat. Hein, elle rentre aussi dans le cadre du combat de la vie, mais c'est tout un autre combat différent. Et nous avons été engagés, malgré nous, dans ce combat. Moi, je n'ai pas demandé à être engagé dans un quelconque combat, d'ailleurs. Mais il nous est imposé par notre foi. Nous avons donc grand besoin de la protection de Dieu. Si nous lisons 1 Pierre 5,8, nous voyons que Dieu nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et je vous dis la fin. Donc il peut en avaler plusieurs. Nous devons donc rester vigilants. Mais la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous savons tous ici que la première chose que Satan essaye de manipuler par la tentation, c'est notre pensée. Alors les pensées mauvaises viennent très facilement en nous. Est-ce que nous sommes capables de les rejeter et de les amener captives à Jésus-Christ ? Il faut être vigilant, donc, sans arrêt, à ce sujet. La violence, donc, fait partie de la vie de l'homme dès sa naissance. Pour faire une petite conclusion, un récapitulatif, le monde, donc, a exclu Dieu de son panorama et essaye de reproduire la paix sans Dieu sur la terre sans aucun succès. Et pour pouvoir recevoir la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, l'homme doit auparavant faire la paix avec son Dieu. Une fois que l'homme a retrouvé la paix avec son Dieu, eh bien, il reçoit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, donc, et elle vient d'une relation de confiance retrouvée entre l'homme et son Dieu. Elle vient également nous aider à discerner la volonté de Dieu pour nos vies. Elle nous donne la sérénité et la paix dans les moments d'épreuve que nous pouvons traverser. Elle est un don de Dieu et nous ne pouvons pas la contrefaire. Et elle est conditionnée à notre communion avec notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin en tant qu'exhortation. Si il se trouve ici des personnes qui sont dans la première partie du message, encore, ça peut arriver, c'est-à-dire des personnes qui recherchent la paix peut-être dans le monde encore et qui ne l'ont pas trouvée parce qu'elle n'existe pas, qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu et ce qui les empêche de retrouver la paix profonde, eh bien, c'est le moment de dire à Dieu, de dire à Jésus, oui, je veux retrouver cette paix que j'ai perdue. Oui, j'ai envie de connaître Jésus-Christ, de l'aimer et de le servir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos ne se trouve qu'en Jésus, pas ailleurs, et certainement pas dans le monde. Si vous êtes chrétien, que vous avez fait la paix avec Dieu, que vous avez été régénéré par le Saint-Esprit, que vous connaissez votre Sauveur et Maître Jésus-Christ, vous avez peut-être perdu cette paix à un moment ou un autre de votre périple sur terre, sachez que Dieu veut vous la redonner, parce que Dieu donne sans aucun problème. Vous avez peut-être un péché qui est comme un caillou dans votre soulier qui vous empêche de marcher. Le Seigneur vous demande de confesser votre péché parce qu'il est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. Et à ce moment-là, vous retrouverez cette paix qui surpasse toute intelligence et qui gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Prions, s'il vous plaît.